carte blanche à Monseigneur Meyer. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Pascal, bonjour chers auditeurs.
Comme toutes les 6 semaines, nous sommes au rendez-vous, vous et moi, pour échanger sur ce qui a fait ou ce qui fait l'actualité du diocèse de Rodez, mais aussi de la région, de la province du Midi, la province de Toulouse dans laquelle nous sommes, ce qui fait aussi l'actualité de l'Église de France. Alors, au menu de notre carte blanche d'aujourd'hui, Monseigneur, vous avez souhaité que nous puissions parler de la retraite pastorale diocésaine. D'ailleurs, nous enregistrons ce lundi matin et vous allez partir, vous allez rejoindre les prêtres diacres laïcs en mission du diocèse qui se retrouvent à l'abbaye d'Encalcade. Vous avez souhaité qu'on parle aussi de votre travail avec vos confrères évêques de la province de Toulouse, mais aussi plus largement des autres évêques, puisque vous étiez il y a quelques jours à la session doctrinale des évêques. Et puis un événement tout à fait local que nous gardons pour plus tard en célébrant la présence cistercienne en Rouergue. Alors peut-être commençons-nous par la retraite diocésaine, cette retraite pastorale que vous avez voulu élargir cette année, donc prêtres, diacres et leurs épouses, les laïcs missionnés du diocèse et les religieux et religieuses. Que va-t-il se passer pendant une semaine à l'abbaye d'Encalcade?
Ben je pense qu'il va se passer de belles choses à l'abbaye d'Encalcade, comme l'année dernière. Cette retraite, elle nous rassemble dans la diversité de nos états de vie, et c'est vraiment revenir à la source de la prière, en prenant 3 jours ou 5 jours, c'est au choix, de suite, dans le silence de l'abbaye, en communion avec nos frères et sœurs de l'abbaye d'Encalcade et de Dourgne. Et nous voulons ensemble, très simplement, nous resituer devant Dieu. On est laïc missionné en étant chrétien, on est évêque en étant chrétien, on était prêtre, diacre en étant chrétien, on est religieux en étant chrétien. Voilà, c'est cette retraite qui sera prêchée par le père Nicolas Rousselot, qui est jésuite et qui est chapelain de l'église Saint-Ignace à Paris, aura un thème tout simple, hein, suivre Jésus avec l'apôtre Pierre, au rythme des exercices spirituels. Et je connais un peu le prédicateur, j'ai déjà eu l'occasion de vivre des retraites avec lui, eh bien je sais qu'il va nous ouvrir les Écritures et nous aider à entrer dans l'accueil de ce que Dieu nous dit dans l'Écriture, pour que l'Écriture sainte devienne vraiment parole de Dieu et ensemence nos cœurs. Donc c'est vraiment un lieu important pour tous les diocèses. À un moment donné, quand un diocèse se rassemble en retraite, s'il a la chance d'avoir une grande abbaye, ce qui est le cas ici, eh bien nous pouvons venir à une bonne cinquantaine et vivre ensemble une semaine de prière. Donc c'est vraiment très beau dans une province que chaque diocèse puisse vivre une retraite pastorale diocésaine.
Grande abbaye, l'abbaye d'Encalcade, Saint-Benoît d'Encalcade et Sainte Scolastique à Dourgne. Des abbayes, nous en avons aussi dans l'Aveyron. On pourrait citer Bonneval, bien entendu, Nonainc dans le sud. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de l'Aveyron et des abbayes sans parler de Bonnecombe. Puis le 16 février dernier, il s'est déroulé à Bonnecombe un événement un peu particulier.
Alors à Bonnecombe, dimanche dernier, nous avons vécu une cérémonie et une célébration cistercienne à l'occasion de la session de l'abbaye. L'abbaye a été fondée en 1167, et puis après l'expulsion des moines au moment de la Révolution, elle est revenue, cette abbaye, avec des moines qui se sont à nouveau installés en 1876. C'était sous l'épiscopat de mon prédécesseur, Monseigneur Bourret. Et puis en 1965, la communauté a décidé de partir, notamment à Aiguebelle. Ça faisait 60 ans. Et quand je suis arrivé dans le diocèse et qu'il y a eu un audit par la Conférence des évêques de France, s'est posée la question de cette abbaye qui est immense. 14 000 mètres carrés de plancher, 1,2 hectare de toiture, qui n'était plus utilisé depuis quelques années, que faire? Et nous avons eu une préconisation simple, c'était de pouvoir la céder par le Conseil diocésain pour les affaires économiques, le Collège des consulteurs ont donné chacun un avis unanime en vue de la session. Et nous avons pu trouver assez facilement un acheteur, un acquéreur qui s'est présenté à nous avant même la mise en vente et avec qui nous avons pu construire une bonne session et une façon de se projeter dans l'avenir. Alors reste à eux, bien sûr, qui sont chrétiens, engagés, soucieux du patrimoine, soucieux de la mémoire de Bonnecombe, de mettre en musique dans les années qui viennent leur vision de ce patrimoine. Mais nous avons passé 2 heures dimanche avec des moines venant d'Aiguebelle, des moniales venant de l'abbaye de Bonneval, et puis étaient invités un certain nombre de personnes, et nous avons vécu quelque chose de très fort, où on a pu redire notre estime immense, notre amitié aussi, notre proximité spirituelle, avec ceux qui, parmi nous, chrétiens, baptisés, confirmés, font le choix de la vie religieuse et de la vie religieuse contemplative. Ça a été un très beau moment, et c'était l'occasion de dire merci et d'avoir une grande action de grâce pour ce que ce lieu a signifié et continuera de signifier dans notre diocèse, même si depuis 60 ans, il n'y a plus de moines à y habiter.
Vie monastique, abbaye, se ressourcer, puiser à la source des Écritures. Votre épiscopat s'enracine là-dedans, bien évidemment, mais il ne se vit pas uniquement ici en Aveyron, il se vit dans la province. Les 12 et 13 février dernier, vous étiez avec vos frères évêques, vicaires généraux également, et puis peut-être des économes de la province. Vous avez travaillé un certain nombre de questions. Quel est le fruit de ce travail en province des 12 et 13 février dernier?
Là, vous savez, une province ecclésiastique, c'est un certain nombre de diocèses qui sont réunis ensemble autour d'un archidiocèse. Pour nous, notre archidiocèse et notre archevêque métropolitain, c'est Toulouse, Monseigneur Guy de Quérimel. Et autour de lui, nous nous sommes réunis pour pouvoir à la fois aborder ensemble un certain nombre de questions que nous portons en province, pouvoir vivre des temps d'amitié, des temps de réflexion et porter ensemble l'avenir de l'évangélisation dans cette Occitanie à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Alors il y a eu plusieurs thèmes, je crois que je peux en parler. Nous avons parlé de l'enseignement catholique, nous avons parlé des différentes nouvelles de nos diocèses, c'est toujours très agréable. Donc on fait un petit tour de nos diocèses, les évêques et les vicaires généraux disent un petit peu les grands thèmes, les grands événements, les soucis qui sont portés, les belles choses que nous vivons. On a parlé du jubilé, de la pastorale des jeunes et des vocations. Et puis nous avons reçu le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, M. François Mogue, qui est venu nous parler de l'évangélisation dans nos diocèses. Et ça a été une rencontre d'une matinée tout à fait remarquable où il nous a guidés à travers les textes des papes successifs, en revenant même à Paul VI et sur l'évangélisation. C'était un moment très important pour nous. Ça permet de resituer ensemble ce qui est notre raison d'être fondamentale, l'annonce de l'évangile, l'annonce du salut, la prédication de l'Évangile, la prédication du salut, et puis la façon, finalement, dans nos diocèses, dont nous sommes libres, ensemble, de proclamer cet Évangile et de le vivre. Alors, c'est un art de vivre ensemble, c'est se méfier de l'Évangile comme une sorte de contre-culture, mais plutôt vouloir évangéliser la culture dans laquelle nous sommes, vérifier que c'est bien le Christ que nous annonçons, et pas simplement l'Église. Vouloir ensemble, quelque part, vivre une pédagogie de la foi, qui parte de la foi, qui soit vraiment une pédagogie de Dieu. Et donc, ça nous a permis aussi de regarder un petit peu le monde contemporain, notre Europe, notre monde occidental, avec une matrice de la culture européenne qui semble en panne, qui était une culture sous-tendue par le christianisme et qui nous semble très fragilisée. Ces analyses étant faites, nous nous sommes recentrés sur notre mission et ça nous permet ensemble de nous soutenir dans l'annonce de la foi. Alors je crois que c'est important ce que vivent des évêques, des diocèses en termes de communion missionnaire dans une province. Et je remercie beaucoup notre archevêque, Mgr Guy de Quérimel, de faciliter entre nous ce travail. Bien sûr, quand nous nous réunissons, nous avons aussi des temps de prière ensemble, nous avons aussi des questions plus particulières de calendrier, une retraite que nous organisons dans la province en 2026 pour tous les prêtres de la province, qui aura lieu à Lourdes, qui sera prêchée par le recteur de Lourdes, enfin, un certain nombre de choses qui sont des projets communs qui nous permettent d'avancer ensemble.
Des projets communs dans le monde contemporain, c'est aussi ce que portent ensemble, au-delà des provinces ecclésiastiques, l'ensemble des évêques de France. Je sais que vous vous réunissez deux fois par an à Lourdes lors de l'assemblée plénière. Des travaux sont faits par commission et conseil aussi tout au long de l'année. Et puis il y a cette session doctrinale des évêques que vous avez vécu, Mgr Meyer, évêque de Rodez, que vous avez vécu pour la première fois du 17 au 19 février dernier à Lisieux. Une session doctrinale des évêques, qu'est-ce à quoi ?
C'est vrai que le mot peut faire peur, mais en fait c'est tout simple. Les évêques sont des chrétiens et ils ont besoin de nourrir leur vie chrétienne, leur foi, leur ministère, en allant à la source. Alors nous étions un peu plus de 50 évêques réunis pendant 48 heures, du lundi midi 17 février au mercredi 19 février, à l'ombre de la basilique Sainte-Thérèse, patronne universelle des missions, et ensemble, nous avons travaillé sur la charge qui est confiée aux évêques d'enseigner. C'est quoi enseigner et annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui? Alors bien sûr, nous sommes revenus sur la joie de l'Évangile du pape François et on a porté le pape François dans notre prière. Et puis nous avons eu un certain nombre de textes que nous avions à lire, du travail à faire à la maison, si j'ose dire, et puis des conférences. Ça a été assez marquant. Nous sommes repartis notamment d'un évêque, Césaire d'Arles, qui au VIe siècle a donné des conseils à ses frères évêques sur la façon d'enseigner et sur la façon nous-mêmes de nous convertir pour mieux enseigner. Et je crois que c'était le cœur, finalement, de notre session doctrinale, comment, comme évêques, nous sommes en état de conversion pour interroger sans cesse notre fidélité au Christ, notre fidélité aux pauvres, notre fidélité à l'Église, pour exercer convenablement et le mieux possible notre ministère de communion et de mission. Donc, si j'ose dire, une belle session où nous avons aussi eu l'occasion de revenir sur l'histoire récente, par exemple ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons lu des messages, des lettres pastorales de Mgr Jules Géraud Saliège, de Mgr Pierre-Marie Théas, de Mgr Pierre-Marie Gerlier, en août-septembre 1942, quand ils ont commencé à dénoncer, au titre de leur mission d'enseignement, ce qui était en train de se vivre par rapport aux Juifs. Et ça a été très fort pour nous de nous resituer dans le contexte et de voir le courage, le cœur de ces évêques qui interpellaient chacun à sa manière la société, le gouvernement sur ce qui était en train de se vivre. Donc ça, c'était vraiment très beau. Et puis nous avons eu, bien sûr, une réflexion sur comment prendre la parole aujourd'hui, que dire, comment enseigner, comment finalement vivre notre ministère. J'ai été marqué, pour ma part, par l'intervention de la doyenne de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse, Madame Claire Le Breton, qui nous a interpellés sur la question des nouveaux défis liés à l'accélération des moyens de communication et d'information. Parce que ça nous oblige à penser de manière approfondie et renouvelée notre acte d'enseigner dans ce qu'il a d'essentiel. Et ça nous a même permis d'avoir une réflexion sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, sur ce langage prédictif qui fait des belles phrases dans les ordinateurs. Est-ce que c'est ça enseigner, ou est-ce qu'on n'enseigne pas existentiellement ce que l'on est, ce que le Seigneur fait de nous? Et donc on a réfléchi, on s'est dit, l'homme a une âme, la machine elle a une puce. C'est quand même pas pareil. Et donc quand on est en train de penser l'évangélisation, l'annonce du Christ, eh bien c'est vraiment notre âme, l'âme de l'Église et l'âme de chacun de nous, qui doit être saisie par le Christ. Donc ça nous a resitué vraiment au cœur de notre ministère. Nous avons reçu aussi le père François Audinet, maître de conférence en théologie pratique aux facultés Loyola, et notamment à la suite de son très beau livre qui s'appelle « Maintenant le royaume » sur la parole des plus pauvres et la façon dont les évêques peuvent enseigner. Voilà, c'était un très beau moment. Et donc, comme jeune évêque, moi j'ai été très saisi et je suis reconnaissant que la commission doctrinale des évêques de France puisse enregistrer nos demandes et puis y répondre avec ce type de session de formation.
Travail en province, travail en Église de France, travail sur le terrain, votre ministère d'évêque, il se nourrit à toutes ses sources. Et il se nourrit aussi de la vie fraternelle avec notamment les prêtres et diacres du diocèse que vous allez rejoindre maintenant à l'abbaye d'Encalcade. Et on vous souhaite une belle parenthèse avec le père Nicolas Rousselot, avec saint Pierre, l'apôtre Pierre et les exercices spirituels de saint Ignace. À bientôt pour une nouvelle carte blanche. Merci Mgr Meyer, évêque de Rodez.
Merci Pascal et à bientôt.